Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, je suis très honoré d'être au silence ce soir. Je vais essayer de parler un peu fort pour que tout le monde entende, parce qu'il y a du bruit tout autour. Voilà, Hubert Cottin vous a présenté le sujet de cette intervention. Ce n'est pas la vie de Charles de Foucault dans tous les détails, de fait, ça pourrait nous prendre toute la nuit. Ce n'est pas non plus une analyse de ce qu'est la religion musulmane. Les rapports de Charles de Foucault avec l'islam et présenté par, de fait, celui qui a l'honneur de présider aujourd'hui les Amitiés Charles de Foucault, une association en 1901 qui a été fondée en France en 1948, qui est aujourd'hui une association internationale, c'est-à-dire que nos membres sont un petit peu sur toute la planète et appartiennent aux familles religieuses qui se réclament de l'héritage de Charles de Foucault, appartiennent à la famille naturelle de Charles de Foucault, appartiennent aux institutions scientifiques à laquelle on peut rattacher la vie de Charles de Foucault, puisqu'elle a réalisé un certain nombre de travaux qui sont considérés comme ayant une haute valeur scientifique, qui appartiennent aussi aux armées, puisque Charles de Foucault était officier, a toujours été en lien avec le monde militaire, et puis qui appartient à d'autres personnes qui ne sont pas des premiers groupes que je viens de citer. Personnellement, je ne suis rattaché par rien de particulier à Charles de Foucault, sinon que mon curé de paroisse, quand j'étais enfant à Lyon, nous évoquait Charles de Foucault dans tous les sermons. Et mon père, qui invitait très souvent le curé à la maison pour le repas ensuite, reprochait à notre curé, qui était un prêtre du Prado de Lyon, de citer Charles de Foucault en chaire, parce que, disait mon cher papa, qui est décédé cette année, un prêtre en chaire ne doit citer que des papes, des conciles, des docteurs de l'Église, des saints canonisés. Alors Charles de Foucault n'est pas sur les autels, on ne peut pas citer, etc. Et j'écoutais cela, et je me disais, quand le prêtre parle de Charles de Foucault et cite Charles de Foucault, ça me fait beaucoup de bien, et j'aimerais bien qu'il continue. Je suis sûr que papa a raison, papa a toujours raison. Donc quand je serai grand, je ferai en sorte que les deux aient raison. Et donc c'est pour ça, dès que j'ai pu, je me suis associé au travail de la cause de béatification et de canonisation de Charles de Foucault, sachant que les Amitiés Charles de Foucault, cette association donc de 1948, a été associée à un certain moment de sa vie, début des années 80, au travail très concret de la postulation à partir du moment où le procès en béatification de Charles de Foucault a été ouvert sous forme de procès apostolique, c'est-à-dire que toute la phase diocésaine était achevée, que que l'évêque diocésain, c'est-à-dire l'évêque du lieu où était décédé Charles de Foucault, aujourd'hui c'est le diocèse de Gardaïa, la Gouate Gardaïa en Algérie, avait conclu positivement, avait envoyé tout le dossier à Rome et qu'il avait fallu un certain temps à cause des événements politiques. Mais en 1978, le pape Jean-Paul II a réouvert le procès apostolique, c'est-à-dire le procès mené cette fois au nom du pape en béatification de Charles de Foucault. Il a cherché un certain nombre de personnes qui s'intéressaient à la cause et qui travaillaient sur la cause pour mener un certain nombre de travaux, et en particulier donc a demandé en France aux Amitiés Charles de Foucault d'être le correspondant de la postulation, de travailler pour le postulateur sur un certain nombre de dossiers, sur un certain nombre de sujets, un certain nombre de travaux, et ce qui s'est fait, ce qui se continue aujourd'hui. Donc les Amitiés Charles de Foucault accompagnent les chercheurs, sont les détentrices, nous sommes les détenteurs des archives de Charles de Foucault, pas de ses reliques, mais du reste des archives qui concernent Charles de Foucault. Et nous faisons un certain nombre de travaux et de publications. Nous avons une revue, trimestrielle qui vient d'atteindre son 200e numéro, donc ça veut dire que ça fait 50 ans qu'elle existe, où nous publions un certain nombre de textes et de résultats de travaux, et nous analysons ce qui se dit sur Charles de Foucault, et nous intervenons dans des écoles, dans des paroisses, dans des émissions, etc. Nous accompagnons un certain nombre de personnes qui ont des projets pour faire des livres, pour faire des films, pour faire des documentaires. Nous essayons et nous sommes un peu dans la position d'être un peu les gardiens de la vérité documentaire historique concernant Charles de Foucault. Nous sommes tout à fait favorables aux travaux spirituels, aux études spirituelles, mais notre rôle n'est pas de faire de la spiritualité. Il y a des associations pour cela, des associations de prêtres, des associations de laïcs, il y a des congrégations, il y a des fraternités. Nous sommes voisins d'eux. Certains membres de tous ces groupes-là appartiennent à nos amitiés, mais nous faisons un travail scientifique de recherche et de publication et d'accompagnement du travail de la postulation, parce que vous savez qu'il n'y a rien de plus précis, exigeant, rigoureux qu'un procès d'église, qui est une multiplication de procès dans le procès pour arriver à la canonisation de personnes, d'autant quand ces personnes ont une vie un peu particulière, avec des témoins qui sont difficiles à retrouver, avec beaucoup d'écrits, comme c'était le cas de Charles de Foucault, et avec des choses qui ont été un peu transformées par certains héritiers, par certains événements, par certains livres, par certains films, etc. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, qui est le rapport de Charles de Foucault et de l'islam, parce que de fait, l'image de Charles de Foucault, hein, je crois que l'idée de démarrage d'Hubert en me faisant venir, c'était d'essayer de rectifier ce qu'on peut entendre dire parfois, ou ce qui peut nous impressionner relativement à la position qu'avait Charles de Foucault face à l'islam. Je vais quand même résumer très rapidement sa vie pour ceux qui ne l'auraient plus trop en mémoire. Charles de Foucault a vécu 58 ans et sa vie peut être découpée en deux parties, et elle-même en deux parties. C'est-à-dire, une première partie, c'est. Vous savez, Charles de Foucault est né en 1858 à Strasbourg. Et la première partie de sa vie va aller jusqu'à l'âge de 28 ans, donc on est presque à la moitié de sa vie. Et c'est l'année, en 1886, où il retrouve la foi, parce qu'il a perdu la foi. Donc la première tranche de sa vie, c'est ces 16 premières années où il est croyant, orphelin à 5 ans, élevé par son grand-père, et puis ensuite... très, très intellectuel, lisant beaucoup, et il perd la foi parce que, à 16 ans, à la suite de nombreuses lectures et de toutes les objections qu'ont soulevé en lui les lectures qu'il avait faites, et il n'a trouvé personne pour répondre à ses objections. Il manifestera combien il est important que les enfants, que les jeunes, que les adolescents aient des personnes qui sachent répondre à leurs questions, à leurs objections, et qui ne soient pas dans un état de neutralité. Il en veut beaucoup à la neutralité et à la laïcité, en fait. Il avait en face de lui des professeurs qui étaient neutres, et c'était un mal, et il n'a pas eu les réponses à ses questions. Donc il perd la foi, et la perte de la foi va entraîner une dégradation morale. Mais ce n'est pas parce qu'il était devenu débauché, entre guillemets, on a toujours exagéré cet aspect-là, qu'il a perdu la foi. C'est exactement l'inverse. Donc voilà, 16 ans, il perd la foi, première tranche de vie. Il perd la foi au moment où il prépare son entrée. Il a quand même eu le bac très jeune, avec dispense d'âge, etc. Où il prépare l'entrée à Saint-Cyr. Il devient officier de cavalerie. Et donc, sur la deuxième tranche, il est officier de cavalerie. Et au bout de quelques années, il démissionne de l'armée parce qu'il s'y ennuyait beaucoup. Et il entreprend donc une vie d'explorateur. Et il se prépare à être explorateur. Et au début, il pensait faire des explorations plutôt en Égypte, etc. Et finalement, il décide d'aller explorer le Maroc, qui était un pays dont la carte était quasiment blanche à cette époque-là. Il y avait juste la côte qui était connue. Mais dès qu'on rentrait un peu loin dans les terres, on ne connaissait plus rien. Les cartes de cette époque étaient blanches. Et c'est le travail que va faire Charles de Foucault qui va permettre de constituer la carte du Maroc, au moins du sud marocain. Donc, il se prépare pendant plus d'un an à Alger. Et il va faire cette exploration extraordinaire pendant un an, sous l'apparence d'un rabbin juif. Donc il va apprendre tout ce que doit savoir faire un juif qui prétend être rabbin et qui revient du pèlerinage en Terre Sainte, et qui vient visiter les communautés juives du Maroc, mêlées à toute la vie musulmane. Donc il va faire pendant un an ce voyage, en prenant des notes, en faisant des relevés topographiques, en notant des tas de choses. Et puis il va finir ce voyage, faire encore une ou deux expéditions dans le sud de l'Algérie, dans le sud de la Tunisie pendant quelques temps, et puis écrire le compte-rendu de son voyage, ça s'appelle « La reconnaissance au Maroc », voyage et livre pour lequel il va avoir la plus haute distinction scientifique de géographie de l'époque, la médaille d'or de la Société de géographie de Paris, qui va lui être promis par le grand géographe Duverrier. Et pendant ce temps, se fait un travail en lui de spirituel. Il a retrouvé un idéal dans la vie, il avait ce projet d'exploration, mais qu'est-ce qu'il va faire par derrière? Tout ça travaille en lui. Et au contact de sa famille, qui est très pratiquante, qui est très croyante, qui est beaucoup dans les œuvres, il se dit finalement que la religion de son enfance n'était peut-être pas si absurde que ça, puisque les gens qu'il connaît, qu'il aime et qui la pratiquent et qui vivent de ça sont si bien, cette religion ne peut pas être fausse et mauvaise. Donc il faut qu'il l'étudie de la même manière qu'il avait étudié la religion juive pour se faire passer pour un rabbin. Et donc il se replonge dans l'étude du christianisme, et c'est là qu'il rencontre un des vicaires de la paroisse Saint-Augustin à Paris, un grand intellectuel de l'époque, un ancien normannien qui avait converti des grands intellectuels, l'abbé Huvelin, Henri Huvelin, qui sera peut-être sur les autels un jour. Et voilà, la fameuse rencontre dont vous avez tous entendu parler, un des derniers jours de octobre 1886, dans une chapelle latérale qui a été reconstituée à l'identique aujourd'hui, sauf la plaque qu'on y voit, bien sûr, qui rappelle l'événement. Voilà. Après Saint-Rita, la chapelle de Saint-Rita. Mon père, je viens me voir pour que vous me parliez de religion. Ce prêtre, qui est un nouveau curé d'Ars à Paris à la fin du 19e siècle, est tout confessionnal, est passé dans un temps confessionnal. Je veux que vous me parliez de religion, voilà. Mettez-vous à genoux et confessez-vous. Mais je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour entendre que vous me parliez de donner des cours de religion, que vous me parliez de religion, et ce prêtre donnait des cours d'histoire de l'Église, donnait des conférences nombreuses qui ont été publiées pour les jeunes filles, pour les adultes, dans l'Église Saint-Augustin. Mettez-vous à genoux et confessez-vous. C'est le chemin de Damas, il obéit, il se met à genoux, il se confesse, et d'un seul coup, la foi lui revient. Vous êtes à jeun, oui, je suis à jeun, c'était en fin de matinée, ben venez, il fait sa deuxième première communion à l'hôtel de la Sainte Vierge, qui est elle-même encore aujourd'hui, derrière l'hôtel principal de Saint-Augustin. Voilà, et à partir du moment où j'ai su que Dieu existait, dira-t-il, j'ai su aussi que je ne pourrais faire que de ne vivre que pour lui. Et donc, fin de la première partie de sa vie, il avait perdu la foi, il la retrouve. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Deuxième partie de sa vie, de 1886 à 1916, 30 ans, coupée en deux. Une partie où la partie où il n'est pas prêtre et la partie où il est prêtre. Donc 1886 à 1901, il va chercher sa vocation en fait. Pendant quelques années, il fait des retraites un peu partout, il fait un voyage en Terre Sainte, il veut marcher là où Jésus a marché, et finalement, après être allé chez les jésuites, chez les bénédictins, à différents endroits, il a été séduit un jour par la vue du jardinier de la trappe de Fontgombault. C'était une trappe à ce moment-là, Fontgombault. Il s'est dit, voilà, je vais être comme ça, mais dans le plus pauvre monastère de France. Et on lui apprend que le plus pauvre monastère de France, il est perdu au fin fond de la Lozère et de la Haute-Loire, ça s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. Et il y va, et d'autant plus quand il est là-bas, il apprend en plus que Notre-Dame-des-Neiges a une fondation en Syrie, à Agbès, où c'est encore plus pauvre. Donc il est convenu qu'au bout de quelques temps, il partira à Agbès, ce qui se fait. Donc il est converti fin octobre 1886. En janvier 1890, il rentre à la trappe, il devient frère Marie-Albéric. Au bout de 4 mois, il est envoyé en Syrie, où il va passer quasiment 7 ans. Voilà, dans cette pauvre trappe de Agbès. Mais au bout d'un certain temps, on commence à vouloir lui faire des études. On remarque que c'est un sujet d'exception, d'élite, qu'il pourrait être chef, qu'il pourrait être quelqu'un d'important dans l'ordre. On veut lui faire des études. Il rechigne, il cherche toujours plus de pauvreté, de pénitence, etc. Il commence à écrire une règle de vie plus difficile, les ermites du Sacré-Cœur. Il a évidemment une grande dévotion pour le Sacré-Cœur. Mais il obéit toujours, il obéit, il se confie à l'abbé Huvelin, le prêtre de Saint-Augustin, qui est devenu son père spirituel immédiatement. Et on a toute la correspondance, elle est extraordinaire. Le travail de la direction spirituelle et en même temps de l'écoute du Saint-Esprit, le travail que fait dans une âme le Saint-Esprit, alors qu'on est son père spirituel et qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe et quelles décisions il faut prendre. En tout cas, Dieu est là, et c'est ce que vont constater les supérieurs généraux de la trappe, puisque finalement, après l'avoir observé, l'avoir fait venir à Rome sous prétexte de lui faire faire des études de théologie auxquelles il va se plier pendant quelques mois. Finalement, l'abbé général de la Trappe, dont Sébastien Biard, voulait voir véritablement qui était ce personnage dont on lui parlait, dont les pères abbés des monastères où il était passé disaient qu'il a toutes les vertus, toutes les qualités d'un saint, il n'y a qu'une seule chose qui nous étonne, c'est qu'il ne fasse pas encore de miracles. Et finalement, il lui dit, vous n'avez pas notre vocation, de fait, c'est ce que vous dites depuis un certain temps. Et je confirme, mais les pères abbés et mes frères vont m'en vouloir d'avoir pris cette décision, mais je suis obligé de reconnaître que la volonté de Dieu est que vous n'êtes pas fait pour être trappiste, vous avez une autre vocation, et bien suivez votre vocation avec l'aide de votre père spirituel. Donc voilà. C'est 1897. Et là, il va repartir immédiatement en Terre Sainte, et vous savez, il va passer 3 ans comme incognito. Alors, il y a une ou deux. La mère supérieure va le reconnaître, parce qu'il était venu en pèlerinage, je vous l'ai dit avant, il était passé au même endroit, elle va le reconnaître, mais ce sera un secret entre eux. le reste de la communauté ne saura jamais. Il s'agit des Clarisses de Nazareth, et puis après des Clarisses de Jérusalem, qu'il était le vicomte de Foucault, ancien officier de cavalerie, qui avait mené la Grande Nuit, et qui, etc. Donc il est le jardinier des Clarisses de Nazareth, vivant dans la cabane du jardinier, au fond là-bas, enfin, passant beaucoup de temps en adoration du Saint-Sacrement, écrivant des pages et des pages et des livres entiers de méditation. Tout ça, on l'a publié année après année. Ça fait 22 volumes aujourd'hui d'écrits spirituels. Et n'ayant pas encore vraiment trouvé sa vocation et continuant à écrire des règles, etc., jusqu'à ce que la mère supérieure des Clarisses de Jérusalem lui dise « Mais mon frère, puisque votre idéal, c'est l'imitation de Jésus-Christ, vous devez vous rendre compte que Jésus-Christ, c'est d'abord un prêtre, donc vous devez être un prêtre. Si vous voulez imiter Jésus-Christ, vous qui êtes un homme, vous devez être prêtre. » Et là, il entend ensuite un père dominicain prêcher sur le sacerdoce, et il comprend que c'est ça, et il accepte de devenir prêtre. Il rentre en France pour faire une année d'études qui va faire de nouveau à Notre-Dame-des-Neiges, et en juin 1901, donc, il est ordonné prêtre. Donc, première tranche de sa deuxième période de vie. 15 ans, où il a cherché sa vocation, et finalement, il va être prêtre, et prêtre missionnaire auprès des gens les plus pauvres qu'il ait connus dans sa vie, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Donc, il y en a en Terre Sainte, il y a plein de prêtres, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas la peine de retourner là-bas. Déjà, il y a un endroit où il n'y en a pas, où on ne connaît pas Jésus. Donc, il va décider de partir en Algérie. Donc, quatrième partie de sa vie, ou deuxième partie de la deuxième tranche, les 15 dernières années, c'est le retour en Algérie, l'installation le plus au sud possible, et le plus près de la frontière du Maroc, parce que son rêve, en fait, c'était de retourner au Maroc, dont il avait fait l'exploration en 1882-83, mais dans lequel il ne pouvait pas rentrer comme prêtre catholique, il aurait été tué tout de suite. Donc c'était d'attendre qu'il se soit pacifié, que ce soit voire conquis, etc., et puis de s'y précipiter. On ne fera jamais appel à lui, Lyautey ne voudra pas de lui, donc il va se tourner vers une autre région, et accompagné par celui qu'il appellera l'ami incomparable, le commandant de l'armée française dans toutes les oasis du sud de l'Algérien, le colonel, le futur général Henri de la Périne, qui va petit à petit l'amener avec lui dans ce qu'il appelle les tournées d'apprivoisement, et lui dire « mais vous devriez vous installer là-bas, au milieu des Touaregs, au cœur du Sahara », ce qu'il fera en 1905. Donc il va vivre avec eux pendant 10 ans, jusqu'à ce moment où il va être assassiné par l'un d'entre eux, enfin, avec la complicité de l'un d'entre eux, et par un redzou d'un groupement de fanatiques musulmans appartenant à une secte qu'on connaît bien, qui arrivait de Libye, qui était animée par toutes sortes de raisons. Enfin, on n'est pas là pour faire l'histoire de Charles de Foucault, mais voilà. Quatrième tranche de vie, 1901-1916, sa période au Sahara. Donc, si on veut reprendre... Donc là... excusez-moi. Donc il meurt le 1er décembre 1916. Le 1er 1916, donc c'est dans quasiment un an. Et donc nous venons d'entrer, en fait, dans le monde foucauldien, mais pour l'Église aussi, en même temps qu'on va rentrer bientôt dans l'année de la miséricorde que le pape François a proclamée. Nous venons d'entrer, au nom du monde foucauldien, dans l'année du centenaire foucauldien. Cette année a été ouverte le 31 octobre par le patriarche latin de Jérusalem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par le patriarche latin de Jérusalem, en vertu du fait que Charles de Foucault avait passé trois ans en Terre Sainte. En France, le 13 novembre, donc c'était il n'y a pas longtemps, où il s'est passé pas mal de choses, 13 novembre, où toute la journée, sur la terre entière, les familles foucauldiennes et les amis foucauldiens se sont succédés en une heure d'adoration chacun, à partir de 8h du matin. C'était le 10e anniversaire de la béatification de Charles de Foucault, donc, qui a été béatifié par Benoît XVI le 13 novembre de 2005. Et puis, voilà, et puis on va voir une date importante. Il va y avoir dimanche dernier une grande messe télévisée dans la cathédrale de Viviers. Charles de Foucault a été ordonné prêtre à Viviers, au grand séminaire de Viviers, et son statut à sa mort était toujours d'être prêtre du diocèse de Viviers. Il n'est pas mort comme religieux, puisqu'il n'a jamais réussi. Il a écrit des règles, il aurait voulu avoir des frères et des gens avec lui. Il n'a jamais eu personne, donc il est mort dans le statut canonique de prêtre du diocèse de Viviers. Et donc, le mec et l'évêque de Viviers est très foucauldien, et voilà, il y avait une grande cérémonie qui était prévue. À cause des conditions de sécurité, cette cérémonie a été annulée et sera reportée au 17 avril. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est le 1er décembre, jour anniversaire de la mort de Charles de Foucault, qui est le jour de sa fête liturgique, hein, quand le pape Benoît XVI a l'a béatifié, il a décidé que le jour où on fêterait Charles de Foucault serait le jour de son naissance au ciel, c'est logique dans l'Église, le 1er décembre. Donc, il y a toujours ce jour-là, partout dans le monde foucaudien, des cérémonies. Et en France, c'est à Paris, en deux endroits particuliers, à Saint-Augustin. Et nous-mêmes, les invités Charles de Foucault, nous donnons une conférence ce soir-là. Nous parlerons de Charles de Foucault et la prédication de l'Évangile. Et puis ensuite, nous participons aux cérémonies organisées par la paroisse, Adoration du Saint-Sacrement, Messe. Et puis, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre aussi, où les bénédictines sont attachées à faire vivre le souvenir de Charles de Foucault. Puisqu'il était consacré au Sacré-Cœur et qu'il est venu faire des nuits d'adoration au Sacré-Cœur. Voilà, donc Charles de Foucault a vécu dans le monde musulman, j'ai refait le calcul pour vous ces jours, exactement 28 ans et 6 mois de sa vie. Dans la moitié de sa vie, il l'a passé en monde en terre musulmane, avec des musulmans, au milieu des musulmans. 4 mois en 1880-81, 9 mois dans le sud oranais en 1881-82, 15 mois à Alger pour préparer son exploration du Maroc, 12 mois pendant son exploration du Maroc, de nouveau un mois à Alger au retour. Ensuite, 4 mois et demi en une exploration dans le sud algérien. Un voyage en Palestine fin 88-89, 2 mois et demi. 6 ans et 2 mois et demi à Agbès comme trappiste. Un mois avant d'aller à Rome, en Algérie, à Staweli, le temps d'apprendre un peu d'italien. Il y a beaucoup de moines italiens dans cette trappe. 3 ans et 5 mois à Nazareth et Jérusalem, mais il était en contact avec, il le raconte, avec pas mal de musulmans. Et puis de mi-septembre 1901 jusqu'au 1er décembre 1916, donc date de sa mort, 15 ans et 2 mois et demi en Algérie, entrecoupés par 3 petites interruptions, un mois en France, même pas un mois, 3 semaines en France en 1909, un mois complet en France en 1911, et presque 3 mois en 1913. Voilà. Donc en tout, 28 ans et 6 mois. Donc c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de temps quand même au milieu musulman, qui était en contact pendant certaines périodes de sa vie uniquement avec des musulmans. À partir de 1905 et jusqu'à la fin, pendant des mois, il ne voit d'autres personnes que des gens qui sont de religion musulmane, quel que soit leur niveau de conviction et de foi musulmane, peu importe, mais voilà. Et sinon, il a beaucoup vécu dans ce monde-là. Donc c'est quelqu'un qui est autorisé quand même pour en parler, qui a observé, qui a écouté, qui a vu, qui a médité, qui a certaines grâces particulières. Voilà. Cela dit, qu'est-ce que malheureusement on a pu entendre dire, ou qu'un certain nombre de personnes font passer comme message relativement à ce rapport de Charles de Foucault avec l'islam ? On a beaucoup retenu, et on nous resserre encore, excusez-moi pour le mot, on nous resserre encore régulièrement certaines déclarations de Charles de Foucault, comme celle qu'il a pu faire dans une lettre du 8 juillet 1901 à son ami Henri de Castres, qui est un officier des affaires indigènes et qui avait un peu étudié ce qui concernait l'histoire de l'islam et l'islam. Et alors, après des années où il n'avait pas communiqué avec lui, il commence à lui écrire à partir du moment où il vient d'être ordonné prêtre. Et on nous cite souvent ce début presque de sa lettre du 8 juillet 1901. « Oui, vous avez raison, l'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Ad majorem nati sumus. Je me suis mis à étudier l'islam, puis la Bible. » Voilà, ça on nous le dit souvent. Il a été séduit par l'islam et on ne nous dit pas. On s'appuie là-dessus. Ensuite, il est présenté, et même malheureusement dans certains textes officiels de l'Église, comme étant une sorte de. Quelqu'un qui était en dialogue avec la religion islamique. Comme un précurseur du dialogue interreligieux entre le christianisme, le catholicisme et l'islam. On nous dit aussi qu'il ne voulait pas convertir. Du reste, il ne l'a jamais, il ne l'a pas fait. Mais qu'il ne voulait pas, que c'était positif chez lui. Et encore récemment, un prêtre, et aujourd'hui, Charles Foucault n'a pas pu fonder de congrégation religieuse, d'institut, de fraternité, jamais personne n'est venu avec lui. Il a réussi à fonder une association qui regroupait des abbayes, tel ou tel prêtre, telle ou telle religieuse et pas mal de laïcs, pas beaucoup parce qu'en fait ils étaient 50 à la mort de Charles de Foucault, qui s'appelait les frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, qui était une association de soutien de gens qui seraient en métropole et qui soutiendraient son œuvre auprès de là où il était, en priant, en envoyant des dons, en faisant des biens matériels, etc. Voilà. Au début, ils voulaient l'appeler l'Union coloniale et catholique. Et finalement, c'est devenu l'Union des petits frères et petites sœurs du Sacré-Cœur, qui a été approuvée par l'Église, par l'évêque de Viviers, puis ensuite par Rome. La personne qui dirige cette association aujourd'hui, qui est un prêtre de Paris, qui a écrit des livres sur Charles de Foucault, sur d'autres saints, écrivait encore il y a quelques mois dans une revue catholique que je connais bien, puisque c'est celle du monde lassalien pour laquelle je travaille, que Charles de Foucault ne voulait convertir personne. Et puis il y a l'attitude de ses disciples, ceux qui sont présentés dans ses disciples. Le premier président de cette association, après la mort de Charles de Foucault, qui est un savant français dont vous avez sans doute entendu le nom, qui s'appelle Louis Massignon. Charles de Foucault aurait aimé que ce soit son successeur, mais c'est quelqu'un qui a passé son temps à chercher comment on pouvait faire des ponts entre l'islam et le christianisme, qui avait une sorte d'envoûtement pour une certaine mystique musulmane qu'il avait découvert lors d'expériences bizarres au Caire, où il avait été donné des conférences. Et qui, voilà, même du vivant de Foucault, ils étaient en contact, Foucault aurait voulu qu'il vienne avec lui et qu'il soit religieux et prêtre, et finalement cet homme-là s'est marié avec une de ses cousines. Il n'a pas suivi Foucault, mais ensuite il a été le responsable de son association, mais avec toujours ces. Voilà. Les premières congrégations fondées prétendument dans l'esprit de Charles de Foucault, qui ont suivi un peu le mouvement dans l'Église, de l'enfouissement, des prêtres et religieux ouvriers, etc., et un certain nombre d'intellectuels. Enfin bref, le message a été quand même beaucoup brouillé, et beaucoup, même s'il y avait à côté de ça. D'autres prêtres, d'autres religieux, des intellectuels, comme un René Bazin et d'autres, qui ont quand même pris la conscience de ce qu'était le vrai Foucault et son vrai projet, son vrai message et à quoi servait sa vie. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui ont troublé terriblement. Donc un faux témoignage rendu sur Foucault de la part de gens qui, en plus, appartenaient à des congrégations se réclamant de lui. Ça a entraîné un trouble à Rome même. Et quand... nous, les amitiés de Charles de Foucault, nous avons été appelés à aider le postulateur dans son travail. À ce moment-là, Rome se demandait, mais n'avait plus confiance en Charles de Foucault, et se disait que le projet de Charles de Foucault n'était peut-être pas catholique. Mais qu'est-ce qu'il était allé faire au désert? Pourquoi il était allé, finalement, s'il voulait convertir personne? En quoi sa vie et sa vocation rejoignaient le message évangélique et les demandes de Jésus-Christ? Donc, voilà. Il fallait remonter une certaine pente et il fallait arriver à prouver que oui, il avait été fidèle à l'Évangile, que oui, il avait toujours voulu faire ce que le Christ avait demandé, aller enseigner les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce qu'a dit réellement, ce qu'a fait réellement Charles de Foucault dans ses relations avec l'islam. Voilà, je vois que madame a un bon livre qui a publié il y a quelques années un certain nombre de textes qu'on ne dit pas, qu'on ne connaît pas souvent et qu'on n'utilise pas souvent, et qui sont précisément les textes un peu, on dirait aujourd'hui, politiquement incorrects de Charles de Foucault. Voilà.
Le titre, c'est « Pensées intempestives, dérangeantes et incorrectes », qui gratte le poil de...
Tout à fait. Donc...
C'est très bien. C'est
alors
très bien.
La première, je vais faire une première distinction qui est très importante. Il faut distinguer de façon radicale ce que Charles de Foucault pense de l'islam comme religion et de ce que Charles de Foucault pense ou fait vis-à-vis des musulmans comme âme individuelle, comme être personnel, comme homme, femme, etc. Très important. Sur le Charles de Foucault, sur l'islam comme religion. Dans notre revue, nous avons commencé il y a quelques années une rubrique qui s'appelle « Attention à la précision » où on revient sur des points qui peuvent paraître très ponctuels et minimes, un point ponctuel, excusez-moi, c'est une tautologie, mais très très... Mais voilà, qui, accumulés les uns après les autres, peuvent transformer de façon importante une vérité historique. Donc, par exemple, c'est cette histoire des lettres, de la lettre à Henri de Castres. Alors certes, Charles Foucault a écrit ce que je vous ai lu tout à l'heure, et celui-là, il ne ment pas. C'est une lettre de 1901, il vient d'être ordonné prêtre, il s'adresse à quelqu'un qui fait des études sur l'islam, etc. Et il dit ce qui lui est arrivé quand il était au Maroc, en train de faire son exploration, qu'il avait perdu la foi catholique, qu'il n'avait plus aucun idéal dans la vie, et qu'il ne savait plus du tout où aller, qu'il était à rattacher aucune religion, aucune tradition, il avait tout envoyé promener. Mais évidemment, ce n'est pas la position du Charles de Foucault devenu catholique, et la position du Charles de Foucault devenu prêtre, et encore moins la position du Charles de Foucault ermite et missionnaire dans le désert. D'autant que, si on continue à lire les lettres qu'il a écrites à ce même personnage, dès la lettre suivante, Charles de Foucault dit, mais non, mais oui, c'est ça, dès la lettre suivante, celle du 15 juillet, tout à l'heure c'était le 8 juillet, celle du 15 juillet, il dit « L'islamisme est extrêmement séduisant, il m'a séduit à l'excès », dont il revient sur la précédente. « Mais la religion catholique est vraie, c'est facile à prouver, donc tout autre est fausse. Or, là où il y a erreur, il y a toujours des maux. Quoique les vérités qui peuvent subsister au milieu des erreurs soient un bien, et reste capable de produire des grands et de vrais biens, ce qui arrive pour l'islam. Nous avons pour divin modèle notre Seigneur Jésus-Christ, pauvre, chaste, ne résistant pas au mal et souffrant tout, paisible, pardonnant et bénissant. L'islam prend pour exemple Mahomet, s'enrichissant, ne dédaignant pas les plaisirs des sens, faisant la guerre. Ces deux sources si opposées, quels courants opposés doivent en être ? En être, le verbe naître, oui. Enfin, le fondement de l'amour, de l'adoration, c'est de se perdre, de s'abîmer en ce qu'on aime et de regarder tout le reste comme un néant. L'islamisme n'a pas assez de mépris pour les créatures pour pouvoir enseigner un amour de Dieu digne de Dieu. Sans la chasteté et la pauvreté, l'amour et l'adoration restent toujours très imparfaits. Car quand on aime passionnément, on se sépare de tout ce qui peut distraire, ne fût-ce qu'une minute, de l'être aimé et on se jette et se perd totalement dans lui. Voilà, autre lettre. La suivante, du 14 août, où il explique qu'il avait perdu la foi et que toutes les religions pour lui se valaient, et puis qu'un égalé de 3 était une question qu'il n'arrivait pas à résoudre et personne ne lui donnait la solution. Et l'islamisme me plaisait beaucoup avec sa simplicité, simplicité de dogme, simplicité de hiérarchie, simplicité de morale, mais je voyais clairement qu'il était sans fondement divin et que là n'était pas la vérité, etc. Et plus tard, il sera toujours la même position avec le même personnage, en 1909, une autre lettre. Tout cela pour amener... Alors, il parle de ce qu'il dit... Dans son voyage de 1909, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est retourné 3 fois brièvement en France, depuis Tamanrasset, et le premier voyage, en 1909, il a rencontré ce colonel Henri de Castres, qui était des environs de Tours. Et après, il lui écrit en disant « Voilà, je suis revenu au milieu de mes Touaregs, je suis revenu à Tamanrasset et je veux reprendre mon travail. Tout cela pour amener, Dieu sait quand, peut-être, dans des siècles, au christianisme. Tous les esprits sont faits pour la vérité. Mais pour les musulmans, c'est affaire de très longue haleine. Il faut faire d'eux intellectuellement et moralement nos égaux, ce qui est notre devoir. Un peuple a envers ses colonies les devoirs des parents envers leurs enfants. » Les rendre par l'éducation et l'instruction égaux ou supérieurs à ce qu'ils sont eux-mêmes. L'œuvre est difficile et longue, il faudrait de grands efforts d'un grand nombre pendant longtemps. Où sont-ils ? Mais la difficulté et l'isolement ne sont pas une cause de découragement, au contraire, ils sont un motif de faire plus d'efforts. Il y a 2 paroles que j'ai toujours devant les yeux, c'est « in angustia temporum », prophète Daniel. C'est donc dans l'angoisse des temps qui a été reconstruit, le temple de Jérusalem et la ville, ainsi que nous le faisons les choses au milieu des obstacles et des insuffisances. L'autre mot est Saint Jean de la Croix, ne mesurons pas nos travaux à notre faiblesse, mais nos efforts à nos travaux. Donc voilà, avec ce même personnage Henri de Castres, Charles de Foucault a toujours été très clair, pour lui la religion, l'islam est une religion fausse et une religion... qui n'était pas divine. Donc, ne parlons plus de la séduction de Charles de Foucault comme un fait établi et qui définit notre Charles de Foucault bienheureux sur les autels. C'est une erreur totalement infondée. Il s'accusera même en confession, dans une des méditations qu'il a faites à Nazareth en 1897, il s'accuse en confession d'avoir prononcé en voyage des paroles laissant croire qu'il était musulman. Donc oui, on sait que c'était une grave faute. La certitude de plus en plus claire pour lui, c'est que l'islam est une erreur, qu'elle nous conduit au vice, qu'elle ne contient pas d'amour, que les âmes qui le suivent tombent en enfer. Lettre au chanoine Caron, supérieur du petit séminaire de Versailles, en 1908. Priez pour tant d'âmes qui, après 1900 ans, n'ont pas reçu la bonne nouvelle, ou en ont perdu la connaissance et le souvenir depuis bien des siècles. Recommandez ces peuples aux âmes pieuses. Il y a là des parties du champ du père de famille si délaissé, des contrées où les âmes dépourvues de nos moyens de salut, esclaves de l'erreur et du vice, tombent en enfer en foule. Une lettre à une mystique lyonnaise, Suzanne Perret, qui fera partie du premier groupe de ses associés. Soit à Beni Abbès, soit à Tamanrasset, soit en voyage, je suis en présence de populations universellement musulmanes, ayant toute une foi profonde, unie à une grande ignorance et à une vie très matérielle, très vicieuse, très pécheresse, avec un grand mépris, une grande hostilité pour les chrétiens qu'ils regardent comme des païens, des ennemis mortels des musulmans et des êtres de mœurs infâmes. Étant donné leur foi qui leur fait rompre dès qu'on leur parle de notre sainte religion, leur ignorance qui les rend incapables d'examiner, de raisonner, de juger, d'étudier, leur état habituel de péché mortel qui les rend esclaves de l'erreur et du mensonge, en sorte qu'ils croient très difficilement ce qui est vrai, très facilement ce qui est faux. Leurs préjugés font qu'ils nous fuient, n'entrent en rapport avec nous que s'ils y sont forcés, font ces rapports aussi rares et superficiels que possible, nous regardent surtout comme incapables d'apporter aucun bien spirituel à leurs âmes, puisque nous sommes un mélange d'ignorance, de folie, de superstition et d'infamie, des idolâtres à mœurs odieuses. Devant le filet à mailles serrées dans lequel le démon tient détenu ces pauvres âmes, qui par suite du mauvais exemple universel tombent presque toutes dans le péché mortel dès l'âge de la raison, il semble qu'à moins de miracle, il n'y a qu'une voie à suivre. Je vais expliquer ensuite ce que lui ferait pour essayer de les convertir. Les apprivoiser, leur enseigner la loi naturelle et enfin leur parler des vérités de notre foi. C'est l'œuvre non d'années, mais de siècles, dit-il. J'en suis partout à la première période, celle où il les apprivoise. Il cherche à se rendre amis d'eux et leur montrer le visage de la bonté. L'apprivoisement. Pour des âmes de bonne volonté, restées pures au milieu de la corruption universelle, il y aura exception. Elles pourront en peu de temps franchir les divers degrés et arriver à la vérité. Les enfants sortis en bas âge de leur milieu et élevés chrétiennement loin de leur pays et du contact musulman pourront aussi être dès maintenant catholiques. Mais ce ne seront que de rares exceptions. Pour la masse, à moins de miracles, ce sont de très longues années, des siècles. Mais ce miracle, Jésus ne le fera-t-il pas? Il aime, il peut tout. Demandez et on vous donnera, a-t-il dit. Ne devons-nous pas demander, nous offrir, espérer? La charité espère tout. Et comment ne pas tout espérer quand on croit au cœur de Jésus? Donc ça, c'est son ami, une amie de Lyon. Et puis vient se greffer sur ces erreurs fondamentales de l'islam, le fait qu'il constate que l'islam maintient les populations, un certain nombre de populations dans l'esclavage. Il constate que les chefs musulmans, là où il est, sont des esclavagistes et vivent grâce au travail que fournissent des esclaves. Il savait qu'il va lutter, même contre la vie des militaires de l'époque qui n'étaient pas nécessairement pour l'esclavage, mais qui voyaient les dangers de soulever ce problème, et même contre certaines autorités religieuses qui vont le tempérer. Il va remonter jusqu'à la Chambre des députés pour faire des interventions, trouvant qu'il était scandaleux que dans les colonies françaises, vous qui mettez liberté, fraternité, égalité sur le fronton de vos monuments, vous êtes incapables de la faire régner dans les pauvres populations qui sont dans le champ du Père, sur les territoires que la France en protection. Donc, il le rattache directement à l'islam. Voilà. Il reparle de ce qu'est la foi musulmane à un autre ami lyonnais, Joseph Fourse, un intellectuel qui était très versé dans les œuvres, qui a mené de grands travaux pour les missions chrétiennes françaises. Il écrit ça en 1912. « Tous les musulmans que j'ai connus sont de bonne foi. Ils ne connaissent en rien le christianisme et ne veulent pas le connaître, croyant sans le moindre doute que leur religion est vraie, que les autres religions sont des superstitions ridicules et que ceux qui les pratiquent sont des barbares. Par suite de la supériorité qu'ils attribuent à leur religion, ils se croient eux-mêmes supérieurs à ceux qui ne la pratiquent pas, sont dans l'erreur sur cette chose essentielle. Ils nous regardent comme des sauvages, qui ne se sauvent, se perdent, non faute de bonne foi, mais faute de contrition parfaite. Ils ont un dogme détestable, c'est que la foi suffit pour le salut, comme chez nos frères protestants. À l'article de la mort, ils font des actes de foi, au lieu de faire des actes d'amour et de contrition. Et il ira même jusqu'à dire que la guerre de 14-18, et là il faudra qu'on arrive à prouver, on l'a fait puisqu'il est l'héroïcité de ses vertus a été reconnue par l'Église et qu'il est sur les autels, que ce n'était pas un manque à la charité. Il a considéré que la guerre de 14 était une croisade contre la barbarie allemande. Il a considéré que la guerre de 14 était, je le cite, lettre toujours à cet ami lyonnais Joseph Fourse, en juillet 1916. Croisade contre la tyrannie allemande qui veut abolir la juste indépendance des peuples. Croisade contre la barbarie musulmane à laquelle l'Allemagne s'est alliée. Le peuple qui a compris l'œuvre de Dieu en combattant cette croisade montre que malgré les apparences, il reste la fille aînée de l'Église, il reste fidèle à la vocation divine, il est certain d'être béni. Voilà. La guerre de 14, une croisade contre la barbarie musulmane. Donc ça, c'est la position de Charles de Foucault sur l'islam. Alors après, il va être difficile, hein, c'est des textes que je vous ai lus, ce ne sont pas mes interprétations, et ce ne sont pas des commentaires. Il est difficile de dire que Charles de Foucault envisageait l'islam comme quelque chose de respectable, d'aimable, et avec lequel on peut discuter. À partir de là, Charles de Foucault va dire qu'il est inutile d'être savant dans la connaissance de l'islam. Avec eux, il ne faut pas discuter. Il faut présenter notre religion, il ne faut pas discuter de la leur. Il donnera un certain nombre de recommandations pour les contacts avec les personnes du monde musulman. Précisément, voilà, deuxièmement, après avoir vu à l'aide de quelques textes, je pourrais vous en lire d'autres, parce que je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai apporté là, et c'est une partie de la documentation qui existe. Mais comment s'est-il comporté vis-à-vis des musulmans eux-mêmes ? Il est allé vivre parmi eux, et il l'a choisi, il l'a voulu. Il est allé vivre parmi eux, et il est difficile de... Et on va trouver peu de personnes, je pense, qui ont fait tant pour eux, c'est-à-dire qui ont consacré tellement leur vie à 100% pour eux. Il est allé vivre au milieu d'eux, il l'a choisi, il l'a voulu, et il s'est donné pour eux, il a travaillé pour eux, et finalement il est mort. Et vous savez peut-être que celui qui était considéré comme le chef politique des Touaregs, qui s'appelait Moussa Agamastan, l'Aménocal, le roi du Hogar, l'Aménocal Moussa Agamastan, à la mort de Charles de Foucault, a écrit une lettre à la sœur de Charles de Foucault. Charles de Foucault a une petite sœur, Marie, en lui disant: Charles de Foucault est mort, mais il n'est pas mort seulement pour vous, il est mort aussi pour nous. Et là, Moussa Agamastan, qui était un musulman, qui était quand même en contact avec Charles de Foucault pendant des années et des années, va avoir reçu une partie du message et de la vocation qui était de Charles de Foucault, c'était d'être un autre Christ, de se sacrifier et d'offrir sa vie pour le salut des musulmans touareg, au milieu desquels il était parti vivre. Donc il est difficile de trouver quelqu'un qui aura... Il y en a d'autres, vous allez en trouver, mais voilà, il a aimé énormément, il a donné tout ce qu'il pouvait, comme travail, comme santé, comme richesse, parce qu'il a tout donné pour eux, y compris sa vie, pour eux. Donc, le regard de Charles de Foucault vis-à-vis des personnes est totalement le regard de l'Évangile, évidemment. Et il les aime pourquoi ? Il les aime en raison de leur pauvreté. Donc, quand il s'est demandé où il allait exercer son ministère sacerdotal, Vous avez dit, il n'est pas allé dans un endroit où il y avait des prêtres, il s'est dit, il faut que j'aille à un endroit où les gens sont pauvres, et pas de la pauvreté matérielle, mais de la véritable pauvreté qui est le fait de n'avoir jamais entendu parler de Jésus, de ne pas connaître l'Évangile, de n'avoir jamais eu la présence eucharistique. Et donc il voulait aller au Maroc, c'était plus possible pour des raisons administratives et politiques. Donc finalement, c'est pas, et la Providence l'a amené à être au milieu des Touaregs, et qui correspondait tout à fait à son projet. Il voulait revivre, là, le mystère de la visitation. C'est une des fêtes qu'il préférait. Et les deux fêtes qu'il préférait, c'était la fête de la visitation et la fête de la transfiguration. Et voilà, il était dans ses méditations en Terre Sainte avant de revenir en France pour se préparer au sacerdoce. Il a beaucoup médité sur ce mystère de la visitation. Et il s'est dit, où est-ce que je vais exercer, moi, mon rôle de visiteur voilà. Il a choisi cela. Donc il l'a fait à cause de leur pauvreté. Et il l'a fait au nom de Jésus. Il aime ces gens parce qu'il voit en eux des frères en Jésus-Christ. Il voit Jésus. Il dit, c'est la même personne qui a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est la même qui a dit, tout ce que vous ferez à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le ferez. Donc il dit, pour lui, il sacramentalise la deuxième parole, elle est aussi sacramentelle que la première, et tout ce que je fais au nom de Jésus, par amour de Jésus, un de ces hommes avec lesquels je me trouve, je le fais à Jésus même. Et donc il applique parfaitement la parabole du bon samaritain qui nous montre que notre prochain c'est Jésus, et on n'a pas d'autre prochain que Jésus. Nous n'avons qu'un seul prochain, c'est Jésus. Et en tout homme il faut voir Jésus, et c'est ce que va faire Charles de Foucault. Et il veut les convertir. Donc contrairement à ce que disait ce prêtre que je citais tout à l'heure, que dit aujourd'hui ce prêtre, et qui est encore une fois l'animateur, parce qu'il ne dit pas président, il dit je crois le modérateur, je ne sais pas quoi, de l'association créée du vivant de Charles de Foucault, il voulait évidemment les convertir. L'Église n'aurait jamais mis Charles de Foucault sur les autels si on n'était pas arrivé à prouver qu'il voulait les convertir, qu'il avait un vrai projet missionnaire, qu'il avait c'était ça. C'était son but, les convertir pour en faire des pour leur permettre d'accéder à tous les biens de la grâce, évidemment. Charles de Foucault ne cessera de répéter, je vous citerai peut-être tel texte tout à l'heure, depuis l'incarnation de Jésus, tous les hommes sont faits pour être chrétiens. Il y a un archevêque français qui, il y a quelques semaines, qui a dit exactement le contraire. Tous les hommes ne sont pas appelés à être chrétiens. Charles de Foucault l'a répété, il l'a répété à Louis Massignon, quand il discutait sur le fait, voilà, sur ce que les travaux de Massignon, les rapprochements avec l'islam, etc. Il dit, c'est pas la peine, tout ce que vous dites, ça ne prouve rien. Massignon, vous l'avez dit, on a le même père, on descend tous d'Abraham, je vais faire une apologétique à partir de ça pour montrer que Dieu, mais ça ne prouve rien, et de toute façon, mon cher ami, depuis l'incarnation de Jésus, tous les hommes sont appelés à être chrétiens, sont faits pour être chrétiens. Alors ça se produit de leur vivant ou non, mais voilà, mais tous un jour, et c'est pour ça que qu'il se dit le frère universel, qu'il est le frère de tout homme, parce qu'il voit déjà le moment où tous les hommes seront des enfants, seront des enfants du Père, auront bénéficié du salut apporté par Jésus-Christ. Mais, dit-il, ça va être une œuvre lente, longue, ingrate. Hein, vous avez vu déjà dans certains passages tout à l'heure, il parle de siècles, il faudra des années, voire des siècles pour les convertir, ces gens-là, tellement ils sont loin du point de vue, en fait, intellectuel, moral, de pouvoir accepter les fruits de la grâce. Et Charles de Foucault, à partir de là, va être missionnaire dans tout ce qu'il va faire. Et je ne vais pas beaucoup insister sur ce qu'il a fait au Sahara, mais il a passé, vous le savez peut-être, il s'est rendu compte donc assez vite que ce serait très difficile de les... Est-ce que... Combien de temps il me reste ? Non, mais... Ce serait assez difficile, donc ce serait très difficile. Alors qu'au début, il pensait pouvoir faire des conversions. Il a baptisé telle ou telle jeune personne, mais qu'il a racheté un petit esclave, il en a racheté un autre, etc. Il les a confiés ensuite au père blanc, aux sœurs blancs, etc. Il n'a jamais converti, c'est vrai, d'adulte, etc. Il pensait quand même y arriver. Puis assez vite, il s'aperçoit que ce sera très compliqué, et de plus en plus, et beaucoup plus compliqué que ce qu'il croit. Mais il dit, il faut que je prépare le terrain. Il faut que je fasse en sorte que mes disciples, enfin les gens qui viendront travailler avec moi, et puis d'autres après, et tous les outils qui vont permettre de passer. Moi, je vais faire l'apprivoisement et puis je vais apprendre à d'autres à faire avec moi l'apprivoisement. D'accord, oui. Il va, il faut que j'apporte les outils. Et les outils, puisqu'il va être en Montoiré quand il est dans les années de sa vie, c'est de connaître leur culture, pas dans un souci sociologique ou d'universitaire ou non, du CNRS, non. C'est parce que il fallait pouvoir s'adresser à eux avec leur langue et avec leur style littéraire et avec leur poésie et avec leurs images pour pouvoir être plus percutant et pouvoir mieux leur parler, donc connaître leur langue, voilà, et mieux les connaître ainsi. Donc il va faire un énorme travail linguistique et pendant 10 ans, il va commencer en 1906, oui, pendant 10 ans il va récolter énormément, tous les textes qu'il va pouvoir, mais qui étaient que des choses orales. Il va les mettre par écrit, il va rédiger les grammaires de la langue touareg, le tamashak, il va rédiger la grammaire, il va rédiger des lexiques, il va rédiger, il va faire des traductions de textes, de poésie, etc., de proverbes, de récits, de batailles, et il va écrire un dictionnaire qui a été publié par l'Imprimerie nationale en 1950, 4 volumes, une quarto, magnifique, un travail que ne refera plus jamais aucun scientifique. Il y passait jusqu'à 12-14 heures par jour. Tout ça, c'était celui qui était le président des archivistes de France à une époque appelait ça la sainteté de l'intelligence. Le seul but, c'était d'arriver à pouvoir bien maîtriser leur langue, voire mieux que pour pouvoir leur transmettre l'évangile dans leur langue et n'avoir besoin d'aucun autre support et de n'avoir besoin d'aucune autre influence et d'éviter certaines autres influences. Donc, ils ont tous la vocation d'être chrétiens. Sont-ils convertissables? Allez dire ah oui. Ils doivent se convertir, ils sont convertissables. Donc, je ne vous lis pas les textes parce que voilà, j'ai déjà parlé suffisamment longuement. Et pourquoi ils ne se convertissent pas davantage? Alors là, c'est pour les raisons morales et de culture et d'ignorance que j'ai déjà lu dans certains textes. Ils s'aperçoivent qu'ils ont un énorme travail de préparation à faire dans leur esprit et dans leur façon de vivre et dans leur rapport avec la loi naturelle et avec la morale universelle pour arriver à ce qu'ils commencent à faire un progrès, etc. Donc, il ne dit pas qu'ils sont. Il dit, il ne faut pas dire qu'ils sont inconvertissables. Ils sont convertissables. Et un saint François d'Assise l'a fait, et un saint Pierre Claver, il raconte comment saint Pierre Claver, au Maroc, au XVIIe siècle, convertissait tous les gens qu'il rencontrait. Donc, c'est possible, mais il faut d'abord que nous soyons saints, nous. Que nous leur parlions, évidemment, si on ne prêche pas, si on ne leur parle pas, si on n'en montre pas ce que c'est que de vivre selon l'Évangile, comment est-ce qu'ils pourront le voir et le comprendre, et que c'est mieux que la soumission dans laquelle ils sont par leurs autorités. Et donc, finalement, quel est le testament de Charles Foucault par rapport à ce qu'on peut faire vis-à-vis des musulmans? Il va dire qu'il ne faut pas honorer leur chef. Il va en vouloir beaucoup à Lyautey d'avoir décoré les grands chefs musulmans au Maroc et ailleurs, etc. Il ne faut pas honorer leurs chefs. Charles de Foucault, les chefs, eux, sont moins dans l'ignorance que la masse des musulmans. Ils savent très bien qu'ils mentent, qu'ils racontent des choses qui sont fausses, que les fondements de leur religion ne tiennent pas debout, etc. Et donc, il ne faut pas les mettre en valeur, il ne faut pas les honorer, il ne faut pas leur, évidemment, encore moins leur construire de bossier, etc., leur donner des dignités, etc. Voilà. Il ne faut pas aider leur culte. Il ne faut s'appuyer en rien, il faut s'appuyer sur ce qui les lie à l'islam. On parle, il ne faut pas utiliser la langue arabe. Charles de Foucault dira tout de suite, quand il va arriver en Algérie et qu'il va commencer à être en contact avec ces gens-là, je vais très vite, avant de faire le travail sur leur langue, il s'est mis lui-même à apprendre dès qu'il a pu avec les Arabes du désert, les Touaregs du désert, des tribus du désert, des Chaamba, etc., à apprendre leur langue. Il ne faut surtout pas qu'on utilise l'arabe, parce que l'arabe, c'est le véhicule du Coran. Quand ils maîtriseront mieux l'arabe, ils pourront mieux écouter les discours des chefs musulmans, ils pourront mieux lire le Coran, mais il ne faut surtout pas qu'ils aient accès à ça. Ce n'est pas la peine. Et il disait même, et si possible, si on pouvait éviter le français, parce qu'aujourd'hui le français est le véhicule, malheureusement, d'idées fausses, d'une fausse philosophie, d'une fausse morale, etc. Donc c'est pour ça qu'ils travaillent tellement leur langue, et donc il va faire tout ce travail sur leur langue. Il faut insister sur la religion naturelle. Ils ne sont pas prêts du tout à entendre les vérités évangéliques. Mais après les avoir apprivoisés, c'est-à-dire l'avoir fait un certain apostolat par la bonté et par l'exemple, insister sur la religion naturelle, qui ne se trouve pas dans le Coran. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou si vous avez des études là-dessus. Il n'y a aucune morale universelle présente dans le Coran, ça n'existe pas. Il ne faut pas discuter du Coran, il faut exposer notre religion, je dirai ça à son évêque. il faut être saint, il faut être vu, il faut leur parler. Et il a appelé de ses voeux à ce que viennent au milieu de ces gens-là des bonnes familles françaises, des commerçants, des artisans, des paysans qui vivraient selon l'évangile en famille. Il y a pour des prêtres et des religieux, d'autant que l'État français, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, il était interdit de faire du prosélytisme dans ce monde-là. Il était tout juste toléré parce qu'il était l'ami des militaires et c'était ses amis qui lui avaient donné les autorisations d'être là. Mais les pères blancs sont repartis parce qu'ils n'ont pas pu se développer, ils n'ont pas pu travailler, etc. Ils sont partis en Afrique noire où c'était plus facile. Ils l'ont laissé tout seul. Ils avaient quand même des martyrs avant qu'il arrive, hein. Il ne faut quand même pas leur jeter la pierre. Et c'est difficile, mais pour des laïcs, ce serait possible. Il faudrait que dans une association, il aurait aimé qu'elle trouve en France, qu'elle rabatte un certain nombre de familles et de personnes vivant selon les valeurs évangéliques qui viendraient vivre au milieu de ces gens-là et qui montreraient ce que c'est que vivre l'évangile pour qu'arrive à ces gens-là. Ce qui lui est arrivé à lui au moment où il s'est converti, c'est voyant vivre autour de lui à Paris quand il rédigeait sa reconnaissance au Maroc, sa famille, ses amis, les gens de la paroisse, il dit d'un seul coup, mais bon sang, tous ces gens sont bien, sont charitables, s'entendent bien, font des bonnes œuvres, et je pense que leur religion est fausse, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas faire tout ce qu'ils font si leur religion est fausse, donc leur religion est vraie, donc il faut que j'étudie leur religion. Non, mais voilà, un peu cette même chose pour les musulmans, les Touaregs, qui verraient nos Priscille et Aquila. Vous savez, Priscille et Aquila, c'est ce ménage de laïcs dans les Actes des Apôtres qui ont aidé saint Paul dans son apostolat, qui m'ont appris du reste le métier de fabriquer des tentes et des toiles pour la pêche, et qui l'accompagnait et qui l'aidait, qui faisait son relais auprès des autres familles, etc. Donc Charles Fou régulièrement dit il faudrait que viennent des Priscille et Aquila au milieu de ces gens-là. Voilà. Et voilà. Et en conclusion, je pourrais citer un extrait d'une lettre qui est très très importante. Dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la lettre que Charles Foucault a écrite à René Bazin le 29 juillet 1916. René Bazin, le 29 juillet 1916, pour accompagner le travail, le développement, le rayonnement de cette association qu'il avait eu le projet de créer en France, et quand il est revenu en France en 1909, 11 et 13, c'était surtout pour poser les fondements de cette association, rencontrer des gens qui en feraient partie, voir son évêque pour approuver le projet, etc. Il s'est dit, il faudrait que quelqu'un, qui soit très connu, écrive quelque chose. Mais raconte pas ma vie, pas ce que je fais, mais quelque chose qui s'en rapprocherait et qui donnerait une idée de ce que je fais et qui, voilà, attirerait du monde. Et il avait lu les Oberlés, ou il avait entendu parler des Oberlés, il s'est dit, il faudrait que ce soit l'auteur des Oberlés qui fasse ça, donc c'est René Bazin. Et il l'a contacté, ils se sont écrits. Et M. René Bazin, qui était un très très grand esprit et écrivain catholique, vous le savez, académicien français aussi, correspondu. Il a posé un certain nombre de questions. Le 29 juillet 1916, Charles Foucault répond à une lettre, il répond à certains points, à plusieurs points que lui posait Bazin. Quelle est votre vie de missionnaire parmi les populations musulmanes? Je passe sur cette partie. Et ensuite, comment franciser les peuples de notre empire africain? La main d'œuvre, bon voilà, les cabines, etc. Alors, c'est dans la deuxième partie de cette lettre que se trouve un passage qui est vraiment très important et qui est, je le cite parce qu'il rejoint notre actualité. L'empire nord-ouest de la France, Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique occidentale française, a 30 millions d'habitants. Alors, dans ce début de paragraphe que je vous lis, Charles Foucault redit quelque chose, là, c'était en 1916, ça. Mais il redit quelque chose qu'il a dit 4 ans avant, c'est-à-dire en 1912, à son grand ami qui était le duc de Fitzjam, un grand catholique monarchiste de l'époque, et il parlait du même sujet, et il stigmatisait les défauts de la colonisation française, républicaine, laïque, etc. En lui disant, si on continue comme ça, tous ces peuples qu'on aurait dû traiter comme nos enfants, et qu'on aurait dû amener avoir notre niveau de moralité, d'éducation, profitant de nos divisions internes, nous chasserons et nous renverrons de l'autre côté de la Méditerranée. Il a écrit ça dans 50 ans, écrivait-il. En 1912, il écrivait ça au duc de Fitzjam. En 1912, voilà. En 1912, il disait, dans 50 ans, profitant de nos divisions internes, si nous continuons à agir avec eux comme nous faisons aujourd'hui, hop, ils nous renverront de l'autre côté de la Méditerranée. Exactement ce qui s'est passé. Là, il reprend la même idée au démarrage. Donc, 30 millions d'habitants. Il en aura, grâce à la paix, le double dans 50 ans. Il sera alors en plein progrès matériel, riche, sillonné de chemins de fer, peuplé d'habitants rompus au maniement de nos armes, dont l'élite aura reçu l'instruction dans nos écoles. Si nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent Français est qu'ils deviennent chrétiens. Il ne s'agit pas de les convertir en un jour, ni par la force, mais tendrement, discrètement, par persuasion, bon exemple, bonne éducation, instruction, grâce à une prise de contact étroite et affectueuse, œuvre surtout de laïcs français qui peuvent être bien plus nombreux que les prêtres et prendre un contact plus intime. Des musulmans peuvent-ils être vraiment français ? Je pose la question. Exceptionnellement, oui. D'une manière générale, non. Plusieurs dogmes fondamentaux musulmans s'y opposent. Avec certains, il y a des accommodements. Avec l'un, celui du Mehdi, c'est leur messie à eux, c'est le grand prophète qui doit revenir et achever complètement l'œuvre de Mahomet. Il n'y en a pas. Tout musulman. Je ne parle pas des libres penseurs qui ont perdu la sainte, qui ont perdu la foi. Croit à l'approche du jugement dernier, croit qu'à l'approche du jugement dernier, le Mehdi viendra, surviendra. Le Mehdi, M-E-H-D-I, le Mehdi viendra, surviendra. Déclarera la guerre sainte et établira l'islam par toute la terre, après avoir exterminé ou subjugué tous les non-musulmans. Dans cette foi, le musulman regarde l'islam comme sa vraie patrie et les peuples non-musulmans comme destinés à être tôt ou tard subjugués par lui, musulman, ou ses descendants. S'il est soumis à une nation non-musulmane, c'est une épreuve passagère. Sa foi l'assure qu'il en sortira et triomphera à son tour de ceux auxquels il est maintenant assujetti. La sagesse l'engage à subir avec calme son épreuve. L'oiseau pris au piège qui se débat, perd ses plumes et se casse les ailes. S'il se tient tranquille, il se retrouve intact le jour de la libération, disent-ils. Ils peuvent préférer telle nation à une autre, aimer mieux être soumis aux Français qu'aux Allemands, parce qu'ils savent les premiers plus doux. Ils peuvent être attachés à tel ou tel Français, comme on est attaché à un ami étranger. Ils peuvent se battre avec un grand courage pour la France, par sentiment d'honneur, caractère guerrier, esprit de corps, fidélité à la parole, comme les militaires de fortune des XVIe et XVIIe siècles. Mais d'une façon générale, sauf exception, tant qu'ils seront musulmans, ils ne seront pas Français. Ils attendront plus ou moins patiemment le jour du Mehdi, en lequel ils soumettront la France. De là vient que nos Algériens sont si peu empressés à demander la nationalité française. Comment demander à faire partie d'un peuple étranger qu'on sait devoir être infailliblement vaincu et subjugué par le peuple auquel on appartient soi-même ? Ce changement de nationalité implique vraiment une sorte d'apostasie, un renoncement à la foi du Mehdi.